Alors, je vous invite à tourner dans la première lettre de Jean. On va voir aujourd'hui l'incompatibilité du mal. Comme quoi, le mal est incompatible avec nous. Vous savez, aujourd'hui, parler de péché, ça n'a pas la même connotation que ça pouvait y avoir il y a 25, il y a 30 ans. Si, par exemple, vous voyez un jeune à un arrêt d'autobus en train de se griller un joint, puis vous lui dites « Hey, tu es en train de pécher », lui, il va dire quoi? « Je fais rien de mal. » Dans sa tête, pécher, dans la tête de bien des Québécois, savez-vous c'est quoi le mot péché, le sens que pour eux ça a, c'est bon, c'est une personne qui n'a pas récité son chapelet. C'est une personne qui a transgressé des règles de l'Église catholique. Pour beaucoup de Québécois, c'est ça, le mot péché. Ça n'a pas la même signification que nous, on peut comprendre. Et quand je dis nous, ceux qui lisons et étudions la Bible. Mais le mot péché, c'est simplement un mot qui traduit le mot armatia dans le grec. C'est simplement une traduction. Certains vont diviniser le mot péché. Mais le mot péché, dans certains contextes, ça veut dire le mal, la rébellion, l'hostilité envers Dieu, l'entêtement envers Dieu, transgresser l'ordre de Dieu, dévier du plan de Dieu. Et ce qui est important, c'est de communiquer la substance de ce mot-là, puis le sens de ce mot-là. Si on utilise ce mot-là, mais il n'y a pas le même sens que la Bible, alors il faut faire attention. C'est important qu'on puisse le définir, le mot péché. Et c'est important qu'on en parle du péché. Et dans le parcours, dans le texte qu'on va voir ensemble, il est question du péché. Mais comme je vous dis, il y a 25 ans ou il y a 30 ans, ça n'avait pas le même sens. Hein? De la même manière que si vous regardez cette famille-là, ben, juste à regarder les coupes de cheveux, on sait que c'est dans les années 80. Hein? C'est clair. Puis dans les années 80, ce qui était appelé bien puis ce qui était appelé mal n'est plus ce qui est appelé bien et mal aujourd'hui. C'est plus la même chose. Dans les années 80, fumer un joint, pour la majorité des gens, c'était mal. Aujourd'hui, on a un premier ministre qui veut légaliser la marijuana. Il y en a qui disent, ben, c'est une bonne chose, ça va enlever de l'argent, du pouvoir au crime organisé. Je suis pas convaincu de ça, moi. Je suis pas convaincu de ça qu'à dire, ah, zut, le premier ministre nous a enlevé des profits. Ils ont déjà tout un réseau d'exportation. Ils ont juste à s'ouvrir un numéro puis devenir maintenant des producteurs puis des importateurs légaux. Ça enlève un peu. Puis le crime organisé va en vendre du moins bonne qualité, à moindre prix. Les jeunes vont aller l'acheter là, ils vont être moins chers. D'autres vont dire, écoutez, la marijuana, on a juste à prendre l'exemple du Colorado, ça va bien depuis qu'ils ont légalisé la marijuana au Colorado. C'est pas vrai, ça. Ça, c'est des gens qui n'ont pas fait de recherche. Savez-vous quoi? Depuis que la légalisation de la marijuana au Colorado, eh bien, il y a une augmentation de 34 % des arrestations en milieu scolaire reliées au cannabis. Il y a une augmentation de 5 % chez les 18-25 ans et de 7,6 % chez les 26 ans et plus. Il y a une augmentation des frais de la santé parce que justement, le fait qu'il y a plus de consommateurs et en plus, ceux qui consommaient déjà consomment plus. Et donc, il y a plus de problèmes de santé dans les hôpitaux qui sont reliés au cannabis. Les hôpitaux sont plus achalandés. Il y a de plus en plus de gens qui sont intoxiqués par la fumée secondaire reliée au cannabis. En 9 ans, il y a eu 516% plus de cas d'intoxication. Le taux a augmenté de 516%. Dans les deux premières années qui ont suivi la légalisation de la marijuana au Colorado, il y a eu une augmentation de 44% des accidents fatals reliés à la présence du THC dans le sang. Donc, les accidents causés par la consommation du pot ont augmenté de 44% depuis la légalisation. Mark Kleinman, un spécialiste des politiques sur les drogues, a été consulté parce que l'État de Washington avait légalisé la marijuana. Et lui, il a conseillé au Colorado de ne pas aller dans cette direction-là, de la légaliser de la manière que ça a été fait. Et savez-vous qu'est-ce qu'il dit aux Canadiens? Il dit, observez le modèle américain, faites exactement le contraire. Mais savez-vous ce qui me brise le plus le cœur? C'est que selon l'UNICEF, les adolescents canadiens figurent non seulement parmi les plus malheureux des pays industrialisés, mais surtout parmi les plus grands consommateurs de marijuana à travers le monde. Je m'excuse. Non, mais c'est grave. Les Canadiens sont parmi les plus malheureux des pays industrialisés, mais c'est les plus grands consommateurs de marijuana. Puis on veut légaliser la marijuana. Ce qui arrive, c'est, savez-vous quoi? C'est qu'on est devenu tolérant. Tolérant à ce qui est mal. Et maintenant, parce qu'il y a des nouvelles valeurs, il y a des nouveaux comportements, notre pays est en train de redéfinir ce qui est bien et ce qui est mal. Et pour savoir ce qui est bien et ce qui est mal selon Dieu, il faut retourner aux Écritures. Et nous, si on se déclare disciple de Jésus-Christ, on est appelé à déclarer ce qui est bien, ce que Dieu dit, ce qui est bien, et mal, ce que Dieu dit, qui est mal. Et ce n'est pas parce qu'on est un enfant de Dieu qu'on est à l'épreuve du mal ou qu'on est immunisé contre le mal. Dans Hébreux 12:1, ça nous dit que nous donc aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, parce que dans le contexte, il venait de citer des héros de la foi, des gens qui ont marqué l'histoire du peuple de Dieu. Et là, il enchaîne dans le chapitre suivant en nous disant, « Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. » Il dit, « Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, qui nous entoure si habilement, qui nous assiège. » C'est un terme militaire, ça. Quand il y avait une armée qui entourait un peuple, par exemple, puis il gardait en état de siège en voulant dire, « Vous ne pourrez pas sortir, vous ne pourrez pas aller chercher de l'eau, vous ne pouvez pas aller chasser pour aller chercher de la nourriture. Tant que vous ne vous rendez pas, eh bien, vous allez mourir, vous allez crever de faim. Et à un moment donné, vous allez être tellement faible que ça va être facile pour nous de vous tuer. Vous devez vous rendre. » Et c'est exactement ça. Le péché, ce qu'il fait, c'est qu'il veut nous assiéger, il veut nous rendre esclaves. Et humainement, si on ne se garde pas auprès de Dieu, eh bien, c'est clair que le mal va nous atteindre. Il n'y a personne qui est à l'épreuve de ça. Et c'est pas pour rien que Jésus, quand il enseignait à ses disciples comment prier, il disait, ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, de ce qui peut nous corrompre. Jésus va nous dire dans Jean 8, 38 que quiconque se livre au péché est esclave du péché. On ne peut pas jouer avec le mal, on ne peut pas jouer avec les péchés, ce n'est pas un jeu. Parce que tôt ou tard, il va nous rendre esclaves, il va nous détruire de l'intérieur et ça va avoir un effet sur l'extérieur. Il y a eu une période de ma vie où est-ce que je ne comprenais pas pourquoi j'étais régulièrement et souvent en colère. Et ça ne faisait pas juste m'affecter. Ça l'affectait ma femme et mes enfants. Parce qu'un rien me mettait en colère. Un rien déclenchait ça, comme Hulk. Et encore aujourd'hui, même si mes enfants m'ont pardonné, ils ont resté avec des marques de ces moments-là. Et c'est pour ça qu'ici, j'ai une illustration. Quand le mal nous domine et nous laisse sans issue, et ça, c'est le signe d'un impasse. Si vous allez en France puis vous voyez ce signe-là, c'est un impasse. Ça veut dire que la rue a fini là, elle débouche pas. Parce que le péché, le mal, et là vous allez dire, hey, c'est déprimant ton message aujourd'hui. Attendez, là, je vous invite, si vous nous écoutez sur la toile, restez au moins jusqu'à la fin. Ça ne sera pas comme ça tout le long. Mais vu qu'on aborde le sujet, il faut l'affronter. Parce que c'est une réalité de notre vie. C'est pas ce qui va bien dans nos vies qui fait la différence. C'est de régler ce qui va mal dans nos vies qui va faire la différence. Et là, ça va bien aller. Mais pour ça, il faut en parler. Il faut l'adresser. Parce que savez-vous quoi? Quand on commet le mal, quand on pêche, intérieurement, en dedans de nous, on peut vivre toutes sortes de choses. On peut sentir qu'on a offensé Dieu, on peut se sentir accusé par notre adversaire, on peut se sentir mal dans notre conscience, on peut se sentir mal dans notre peau. Quand le mal domine en nous, on est certainement inconfortable. Ça va même produire d'une façon différente d'une personne à l'autre. D'autres vont se mettre, par exemple, à manger plus. D'autres vont se mettre à boire plus. D'autres vont se mettre à mal dormir. D'autres vont essayer de trouver dans l'adrénaline une issue pour calmer cette douleur-là. Et d'une manière ou d'une autre, le mal nous rend inconfortables. Et c'est pour ça qu'on va voir dans le passage qu'on va lire dans quelques instants, l'objectif du péché, l'objectif de Christ et l'objectif du chrétien. On va voir trois objectifs ensemble que l'auteur Jean veut nous amener à considérer parce que le cœur et le plan de Dieu, c'est de nous libérer du péché, de nous libérer du mal qui nous prend si facilement. Et c'est pour ça que j'aimerais qu'on puisse se recueillir ce matin et qu'on puisse être à l'écoute de ce que Dieu veut nous dire au travers de sa parole. Recueillons-nous, s'il vous plaît. Seigneur, on prend ce temps pour que tu parles à nos cœurs. Et ce que je te demande, Seigneur, c'est qu'on ne ressorte pas plus déprimé qu'on pouvait l'être aujourd'hui, mais au contraire, rempli avec encore plus d'espérance, même rempli de joie. Parce que quand tu parles à notre cœur et que tu nous montres qu'on est sur une mauvaise trajectoire, c'est jamais un sujet de joie. Mais tu nous donnes une promesse dans les Proverbes, c'est que si on se tourne vers toi pour recevoir tes réprimandes, tu nous dis que tu vas répandre dans nos cœurs ton esprit. Et là où est-ce que ton esprit a la liberté, il y a la joie, il y a la paix, il y a tout ce que notre cœur et ce que notre âme recherche. Et c'est ce qu'on veut trouver au travers de ta personne, Jésus. Amen. 1 Jean chapitre 3, verset 4. Tous ceux qui pratiquent le péché violent la loi, puisque le péché, c'est la violation de la loi. Ici, Jean est en train de mettre une définition de ce que c'est le péché. Or, vous le savez, Jésus est apparu pour enlever nos péchés. Il n'y a pas de péché en lui. Ceux qui demeurent en lui ne pêchent pas. Si quelqu'un pêche, il ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Donc, le premier point, c'est l'objectif du péché. Eh bien, c'est de transgresser la loi. Et puisque le texte a été écrit à l'origine en grec, il y a des subtilités que la traduction nous empêche de saisir, spécialement au travers les temps de verbe puis au travers la richesse de la langue grecque en elle-même. On pourrait le paraphraser en disant « Ceux qui se livrent à répétition à manquer la cible sont sans normes, passent à côté et agissent sans balise. » Donc ici, il est en train de dire, il n'est pas en train de dire que celui qui pêche, ici, ben, ce qu'il est en train de dire, c'est parce que le mot péché, à l'origine, ça veut dire manquer la cible. Un jeune, il dit, savez-vous comment il définirait ça? Il dit, de ne pas être sa coche. Vous avez entendu des jeunes dire ça, ah, lui, il est sa coche, ou ah, cette toune-là est sa coche. Mais péché, ça veut dire de ne pas être sa coche. Ce que Dieu s'attend de toi, ce que Dieu veut pour ta vie, ce que Dieu te demande, tu passes à côté ou tu essaies de le faire à ta manière. Et puis ça, c'est vrai dans le mal comme dans le bien. Hein, parce que tu peux faire un bien que Dieu ne t'a pas demandé et même être en rébellion envers Dieu. Je la raconte souvent, celle-là, mais ça m'avait tellement frappé. On voulait déménager des gens. On a demandé à un frère, viens-tu nous aider? Il dit, non, c'est mon temps de prière, je ne peux pas aller. Je ne peux pas vous aider. Mais je veux dire, ça faisait juste exprimer sa paresse. Là. Je veux dire, écoute, tu peux prier après, là, c'est pas grave. Là, il y a un besoin. Là. Si ton frère te demande de l'aide, puis il ne dit pas, reviens demain. Mais ce qui arrive, le problème avec la loi, c'est que Paul nous dit qu'on n'est pas capable d'y obéir. On n'est pas capable de la respecter, la loi. Le sens de la loi, quand Dieu a donné les 613 commandements à Moïse, c'était pour nous montrer qu'on était condamnable, qu'on est des transgresseurs, qu'on est faible, qu'on est incapable de se soumettre à lui, puis qu'on est distant de sa sainteté. Romains 7, puis 1 Corinthiens 16 nous dit même que c'est la loi qui nous pousse à pécher. C'est la loi qui nous stimule à pécher. La loi met en lumière notre convoitise. Et j'aime bien ce que Jeff Lauré un jour m'a fait remarquer dans le psaume 37 au verset 1. David va dire, « Ne t'irrite pas contre les gens malfaisants, ne sois pas envieux de ceux qui font le mal. » Et souvent, ce qu'on envie chez les autres, c'est ce qu'on va dénoncer. C'est ce qui nous agresse. Parce que c'est souvent, ce sont des convoitises qu'on ne se permet pas de produire, mais quand on voit l'autre le faire, ça vient nous agresser, puis on s'irrite. On s'irrite contre le mal parce qu'on convoite le mal qu'ils font. Ça peut nous arriver, ça. Mais qu'est-ce que ça nous montre, tout ça? C'est que face à Dieu, on est pris sur tous les flancs. On s'en sort pas. Il n'y a personne de parfait, il n'y a personne qui peut y arriver. On est tous des transgresseurs de la loi, on est tous des rebelles face à Dieu. Et si Dieu a pu mettre de l'amour dans notre cœur envers lui, Jean va nous dire plus loin, c'est parce que Dieu nous a aimés le premier. C'est parce que on a goûté, on a été saisi par l'amour de Dieu parce que humainement, c'est impossible à aimer Dieu. Depuis la chute. Depuis la séparation entre Dieu et l'homme. On est pris sur tous les flancs parce que le péché nous amène à désirer ce qui ne vient pas de Dieu, mais ça amène de la culpabilité, donc on essaie de justifier, comme quoi c'est pas si mal. Ça amène la honte, donc on essaie de se cacher. On peut devenir hypocrite, on peut avoir de l'air beau en surface, puis laid en dedans. Et donc le péché nous prend, et c'est pour ça qu'il nous rend esclaves. Mais la raison pour laquelle Dieu veut nous amener à ne pas être atteint par le péché ou à devenir esclave du péché, c'est pour notre bien. Puis à chaque fois que quelqu'un me dit, par exemple, un non-chrétien va me dire, « Oui, mais vous, les chrétiens, vous n'avez pas le droit de faire ci, vous n'avez pas le droit de faire ça. » J'essaie de leur dire, écoute, c'est pour notre bien. C'est pour notre bien. Le Proverbe chapitre 8 nous dit, je vous inviterai à tourner au Proverbe chapitre 8. Elle nous dit d'écouter l'instruction pour devenir sage puis de ne pas la négliger à partir du verset 33. Proverbe 8, 33. Heureux l'homme qui m'écoute. Et là, c'est la sagesse qui parle. Heureux l'homme qui m'écoute, qui veille à chaque jour sur mes portes et qui garde l'entrée de ma maison. En effet, celui qui me trouve a trouvé la vie, il a obtenu la faveur de l'Éternel. En revanche, celui qui pêche contre moi se fait du tort à lui-même, et tous ceux qui me détestent aiment la mort. Celui qui pêche contre moi, qui va transgresser la sagesse de Dieu, qu'est-ce qu'il dit? Il fait du tort à lui-même. Et tous ceux qui me détestent aiment la mort. Et de plus en plus dans notre pays, on est en train de mettre en valeur une culture de mort. Vous savez, moi, ce qui m'a brisé le cœur, je sais que au Canada, par exemple, pour ce qui est les avortements, il n'y a pas de date limite qui interdit un avortement. Quelqu'un peut se faire avorter, une femme peut se faire avorter à l'âge où est-ce que son bébé a 9 mois dans son ventre et puis c'est pas illégal. On a légalisé l'euthanasie tout récemment. On va légaliser, on s'apprête à légaliser la marijuana. Tout ça, c'est dans une culture de mort où est-ce que la vie n'est pas mise en valeur. C'est un cri de rébellion contre Dieu. Vous savez, il y avait un député il y a quelques années, il s'est levé, il dit, OK, il n'y a pas de loi pour régir l'avortement, mais est-ce qu'on pourrait simplement demander à la médecine, pas à des politiciens, demandons à la médecine à partir de quel moment la science déclare que ce qu'il y a dans le ventre de la mère, c'est un être humain. La majorité des députés ont voté contre. Il n'y a pas une recherche de la vérité. On ne veut pas savoir la vérité. On défend simplement des intérêts électoralistes. Et pourquoi? Parce qu'on est dans une culture de mort. On n'est pas éclairé par la parole de Dieu et la volonté de Dieu. Mais ce que Dieu nous appelle, c'est... Parce que là, souvent, l'être humain va marcher par équation, va dire, OK, si le péché, c'est la transgression de la loi, la volonté de Dieu, c'est l'obéissance de la loi. Mais c'est pas tout à fait comme ça que ça fonctionne dans la Nouvelle Alliance. Même Jésus, il a dit, dans Jean chapitre 5, les versets 39 à 42, Jean 5, 32, il dit, « Vous sondez les Écritures pensant trouver la vie en elles, mais vous voulez pas venir à moi. » La loi, Paul nous dit dans Galates 3, elle a été donnée pour nous condamner, pour nous conduire à Jésus-Christ. En d'autres mots, la loi nous est donnée pour montrer que tu es en défaut, tu es manquant, tu es coupable, tu es condamnable et tu as besoin d'un sauveur, tu as besoin d'un libérateur, tu as besoin d'un rédempteur, tu as besoin que quelqu'un te rachète parce que là, tu es condamnable et tu mérites le châtiment. Et moi, j'ai pris la peine d'écouter cette émission-là, Accès illimité, il y a 2 semaines environ, où est-ce que Rachid Badouri, on lui a posé des questions, on dit, ouais, mais toi, tu dis que tu es croyant. Et puis lui, il a répondu quelque chose de vraiment pertinent. Il dit, moi, je ne considère pas que je pratique une religion. Je suis en train de développer une relation avec Dieu. Puis c'est à ça que Dieu nous appelle. C'est là qu'on va trouver la vie. Parce que l'objectif du Christ, c'est d'ôter le péché. Il dit au verset 5, « Or, vous le savez, Jésus est apparu pour enlever nos péchés, et il n'y a pas de péché en lui. » Et le mot « ôter » ou « enlever », ça veut dire « l'amener ailleurs ». C'est comme quand tu sors un poisson de l'eau, tu l'amènes ailleurs, tu l'enlèves de son milieu. C'est comme le corps de Jean-Baptiste, quand il s'est fait trancher la tête, dans Marc 6, 29, on l'a amené ailleurs pour aller l'enterrer. Quand Jésus va dire, prends ton lit et marche, c'est le même mot, c'est on va, enlève ce lit-là d'ici, on veut plus le voir. Marche maintenant. En d'autres mots, on veut plus voir que tu étais un paralytique. Maintenant, ce qu'on veut voir, c'est que tu marches, tu es en nouveauté de vie. Parce que dans le contexte, n'oubliez pas, il dit, qu'est-ce qui est plus facile? Dire, tes péchés sont pardonnés ou lève-toi et marche? Il dit, prends ton lit puis marche. On veut plus le voir, ce lit-là. Quand il dit, ôte le péché, c'est, on veut plus le voir, on veut plus l'avoir devant notre face. On veut qu'il soit disparu. On veut plus qu'il soit là. Et quand ils ont dit, vous savez, quand il fallait que le peuple choisisse entre, Barabbas, puis Jésus. C'est drôle, hein, parce que Barabbas, ça veut dire fils du Père. Jésus, c'est le fils du Père. Mais on choisit le fils du Père qui n'était pas fils de Dieu. Mais bon. Puis quand il dit crucifie-le, crucifie-le, mais dans l'original, c'est. Tu sais, puis il dit à mort, crucifie-le. Mais dans l'original, c'est ôte-le de notre vue, ôte-le de notre vue, crucifie-le. On ne veut plus le voir. Mais là, Jean, lui, ce qu'il dit, prend la même expression. Il dit, Jésus est venu pour l'enlever de notre vue, de la vue de Dieu et de notre vue, le péché. L'arracher, l'enlever. Et c'est ce qu'il a fait à la croix. Il a condamné le péché et le Père a été satisfait par le sang de Christ. Et c'est pour ça que maintenant, quiconque s'approche de Dieu, et c'est là la bonne nouvelle, et ceux qui ont persévéré jusqu'ici, c'est là qu'on rentre dans la bonne nouvelle. Parce que dans Actes 13, 38, ça nous dit, « Sachez-le, donc, mes frères, c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé. Et c'est par lui que toute personne qui croit est libérée de toutes les fautes dont vous ne pouviez être libérée par la loi de Moïse. Tout ce que la loi va nous condamner, Christ a payé pour. Et je peux bénéficier de ce pardon-là, de cette justification-là, d'être un coupable justifié en mettant ma foi en Jésus-Christ. Savez-vous quoi? Plus je vais m'approcher de Dieu, plus je vais être à l'écoute de lui, plus je vais connaître son cœur, plus je vais le voir tel qu'il est, comme on l'a vu la dernière fois, plus ça va produire en moi des désirs nouveaux. Vous savez, Paul a dit dans Romains 8 que les désirs de l'Esprit, en parlant de l'Esprit Saint, sont contraires à ceux de la chair, à cette dimension humaine qui est en rébellion constante contre Dieu, qui cherche à faire le mal. Et c'est pour ça qu'au verset 6, il nous dit que l'objectif du chrétien, c'est de ne plus pratiquer le péché. ceux qui demeurent en lui ne pêchent pas. Si quelqu'un pêche, il ne l'a pas vu, il ne l'a pas connu. Et en d'autres mots, il y a des gens qui sont partis de ce verset-là puis ont dit, mais ça veut dire que le chrétien devrait ne plus jamais pécher. Et si tu pêches encore, c'est que tu n'es pas vraiment né de nouveau, tu n'es pas vraiment... Non, ici, encore une fois, ça vient du grec. On pourrait dire tout le monde qui est constamment en train de passer à côté ou qui a l'habitude continuelle de pécher, bien, c'est qu'il ne l'a pas connu d'une manière expérientielle. Ce qui va nous rendre libres de l'esclavage du péché, c'est de le voir et le connaître. C'est à ça que Dieu nous appelle. C'est ça qui fait la plus grande libération, de le voir et de le connaître. Parce que savez-vous quoi? Dieu, Jésus-Christ, il n'est pas un chef de police qui se promène avec sa matraque puis qui fait des tournées pour voir si tu es continuellement en train de respecter la loi. C'est quelqu'un qui nous aime et qui veut nous amener à le connaître, à le découvrir. Et lui-même nous connaît. Et ce qui va nous amener à tomber en amour avec Dieu, c'est qu'on se sait connu de lui. Il n'y a rien de plus grand, il n'y a rien de plus précieux que de découvrir que Dieu nous connaît. C'est ça qui nous amène à tomber en amour avec lui. Qu'est-ce qui fait qu'on se sent aimé par une personne? C'est qu'on se sent connu. Qu'est-ce qui fait qu'un cadeau nous touche plus qu'un autre? C'est qu'on a senti que la personne nous a connus puis nous a donné ce qu'on aime vraiment. Même parfois, ça va même jusqu'à la couleur. Puis c'est dire, wow, tu me connais, tu sais que j'aime ça. Tu sais que ça me fait du bien. Tu sais que c'est bon pour moi. Tu sais que ça me rend joyeux. Et quand on connaît Dieu, on découvre qu'il nous connaît. C'est ça une relation. C'est pas juste une relation à sens unique. Dieu me donne des ordres, je dois les accomplir, je suis un bon chrétien. C'est une relation dans les deux sens. Paul en parle, il en parle dans sa première lettre aux Corinthiens de ce qu'on est connu de Dieu, il en parle dans Galates également de ce qu'on est connu de Dieu. Et c'est ça qui fait la différence entre un chrétien fervent et un chrétien qui ne dégage qu'une odeur de mort. Le chrétien qui connaît Dieu et qui se sait connu de Dieu, savez-vous c'est quoi la caractéristique de ce chrétien-là? C'est qu'il est animé d'un enthousiasme. Il connaît la joie du Seigneur. La joie du Seigneur, Néhémie, va nous dire que c'est notre force. C'est pas pour rien que Paul nous dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 d'être toujours joyeux. C'est notre force, mais elle vient où cette joie-là? Elle vient d'avoir connu Dieu et de se savoir connu de Dieu. Et ça, c'est le meilleur ingrédient pour voir le péché disparaître dans nos vies, de voir le mal disparaître dans nos vies. Parce que le mal, qu'est-ce qui fait que pour un, va tomber, par exemple, va manquer de maîtrise de lui-même ou d'elle-même, va tomber dans la gloutonnerie. D'autres, je veux dire, c'est des menteurs chroniques. Ils veulent pas, ils sont mal, mais... C'est toujours, il essaie de se cacher derrière une demi-vérité. D'autres, c'est la colère, comme j'ai mentionné. D'autres, c'est des gens qui sont jamais capables d'être soumis à un ordre où ils vont s'offusquer dès que quelqu'un leur demande quelque chose. Peu importe c'est quoi la forme. Ce qui va nous amener à aller de l'avant... Ce qui va nous amener à vivre une vie riche et remplie, c'est de voir Dieu, le connaître et savoir qu'on est connu de lui. Sinon, si on est juste des chrétiens qui recherchent à faire ce que Dieu nous demande, sans relation avec lui, sans le connaître profondément, sans se savoir connu, eh bien, on va devenir des gens qui vont développer de l'amertume. Et c'est pour ça que je vous invite d'être des nôtres au mois de mars pour Libération 21, parce qu'on va adresser ce point-là, de l'amertume à la grâce. Parce qu'une personne amère, l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit, c'est une personne qui n'a pas été saisie par la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, c'est ce que je reçois de Dieu que je ne mérite pas. Je n'ai pas été à la hauteur pour la recevoir. Ça m'humilie parce que je ne devrais pas la recevoir, la grâce de Dieu. Et si Dieu me donnait grâce, je suis conscient que ce n'est pas à cause de mes mérites. Mais pour quelqu'un qui se prive de la grâce de Dieu, puis qui voit un pécheur être gracié par Dieu, savez-vous ce que ça peut produire? De la jalousie, de l'envie. Mais tout ça, c'est une rébellion contre Dieu. Et pour être guéri de cela, on doit apprendre à connaître la grâce de Dieu. Et c'est pour ça que le mal est incompatible avec le chrétien, parce que ce à quoi Dieu nous appelle, c'est d'être joyeux. Je suis d'accord avec vous, on le voit dans l'Ecclésiaste, il y a un temps où est-ce que, par exemple, dans les temps de deuil, c'est pas le temps de raconter des farces à quelqu'un qui est en deuil, là, tiens. C'est pas le temps de le faire rire. La parole de Dieu nous dit de pleurer avec ceux qui pleurent. Mais ce temps de deuil-là, c'est un temps normalement qui a un début et qui a une fin. Mais en dehors des temps de deuil, où est-ce qu'on est appelé à vivre notre deuil? Le Seigneur nous demande d'être toujours joyeux. Et la joie du Seigneur, il n'y a rien qui peut l'égaler. Il n'y a rien qui peut l'imiter. Il n'y a rien qui peut l'égaler. Et en conclusion, même si le mal est dans notre cœur, la place qu'on doit l'amener, c'est à la croix. Parce qu'en amenant la croix, on est en train de dire au Seigneur, je veux en être libéré. Je veux que ce mal cesse de me détruire. Je veux que ce mal cesse de me rendre esclave. L'amener à la croix, c'est de reconnaître que je suis coupable, mais en même temps, Christ a payé pour ces fautes-là. Et ce qui va m'amener une libération, c'est de continuellement retourner à la croix, me garder dans sa parole, m'approcher de lui et trouver la joie du Seigneur. Parce que sinon, qu'est-ce qui va arriver? J'inviterai les musiciens à s'avancer. Eh bien, on va se trouver sans issue. Peut-être que toi, là, tu te dis, ah, moi, là, vos affaires de religion, puis vos affaires de bien et de mal, moi, je le sais dans ma conscience qui est mal, puis j'ai pas besoin d'avoir de Bible ou de personne pour me dire qu'est-ce qui est mal. Moi, j'y vais avec ma conscience. Mais savez-vous quoi? Oui, tu peux fonctionner comme ça, puis c'est correct, tu dois. Moi, j'encourage les gens, à lorsque la conscience nous dit que c'est mal, de réagir. On ne doit pas faire du mal à notre conscience. Mais le problème, c'est que tu te prives d'une personne qui, lui, veut t'accompagner dans ton combat, veut t'accompagner dans ta délivrance. Puis le Seigneur, en le connaissant, tu vas découvrir qu'est-ce qui t'a amené à tomber ou à te laisser prendre par ce mal-là. Parce que Paul va dire dans 2 Corinthiens 1:12, il dit, en effet, notre sujet de fierté est le témoignage de notre conscience. Nous rappelle que nous nous sommes conduits dans le monde et particulièrement vis-à-vis de vous avec sainteté et pureté qui viennent de Dieu, non pas avec une sagesse humaine, mais avec la grâce de Dieu. En d'autres mots, ce que Paul dit, si je me suis comporté avec sainteté et pureté, c'est pas à cause de mes efforts personnels, c'est à cause de la grâce de Dieu. Et si tu veux voir le Seigneur avoir un impact dans ta vie et un impact dans la vie des autres, bien, ça commence par le laisser agir et te rendre bénéficiaire de la grâce qu'il veut t'accorder. La grâce, c'est un cadeau, c'est une faveur que tu ne mérites pas de recevoir, qu'il veut te donner. Et ça, pour chaque personne, d'une manière individuelle, c'est différent. Parce que Dieu est un Dieu personnel. Et c'est pour ça que j'aimerais qu'on puisse se recueillir et remettre nos cœurs devant Dieu. Et si tu n'as jamais reçu Jésus-Christ comme sauveur, prends le temps de réfléchir, prends le temps de méditer, recueille-toi avec nous. Seigneur, on veut te remettre nos cœurs parce que le mal nous entoure, nous assiège si facilement. Mais on veut te remettre nos cœurs pour que tu puisses ôter les racines du mal, ôter ce qui nous amène à tomber, à chuter, à s'éloigner de toi. Viens enlever ce qui nourrit en nous un manque d'intérêt auprès de toi. Comme Alex disait tout à l'heure avant un chant, on chante que oui, t'es mon bonheur, t'es mon trésor, mais c'est pas toujours comme ça qu'on le vit. Mais même si c'est pas toujours comme ça qu'on le vit, même si t'es pas toujours le premier dans ma vie, Seigneur, je veux que tu le deviennes. Je veux que tu prennes de plus en plus de place. Je veux apprendre à te connaître davantage, encore plus en profondeur. Puis je veux prendre de plus en plus conscience que tu me connais personnellement. Pour que la joie que tu vas produire dans mon cœur m'amène à te suivre, à marcher dans tes voies, marcher dans tes traces. Et pour ceux qui n'ont jamais reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, fais juste reconnaître que devant Dieu, tu es un rebelle. Tu ne veux pas que Dieu te dise quoi faire. Tu ne veux pas obéir à sa volonté parce que tu ne le connais pas. Tu ne le vois pas comme un bon père qui t'aime. Mais aujourd'hui, tu peux dire, j'ai compris que je suis condamné, mais j'ai également saisi que Jésus-Christ a pris ma place à la croix. Il a subi ma condamnation et j'accepte qu'il ait payé ma dette et qu'il ait payé mon entrée pour commencer une nouvelle relation, une relation avec toi, Père, à cause de Jésus-Christ qui est mort et ressuscité. Je t'invite à demander à Dieu de te sauver et de nous en parler ensuite de ton expérience. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais dans nos vies. Fais de nous des gens remplis d'enthousiasme à cause de toi, pour la gloire de Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse.